France Inter.
Ce soir, oui, je vais vous emmener sur mon tapis volant, emporté par les brises légères qui nous entraîneront vers un certain Orient imaginaire comme eux.
Takahashi.
nous voilà transportés grâce à la magie du tapis volant de Very Good Trip sur France Inter, quelque part dans le sud-est de l'Asie. Sommes-nous dans un vaste hôtel de plage posé au bord du golfe de Thaïlande à Pattaya ou ailleurs, ou bien de l'autre côté vers la mer de Chine au Vietnam dans une discothèque de Da Nang un soir de fête? Ni l'un ni l'autre, puisque en réalité les musiciens du groupe Yin Yin que nous venons d'entendre sont néerlandais, et oui, et ils nous embarquent dans leur vaisseau musical vers une Asie du Sud-Est imaginaire et totalement fantaisiste. Alors le titre que vous venez d'entendre s'appelle Takahashi Timing. Alors Takahashi, d'après les recherches sommaires que j'ai pu mener grâce à un célèbre moteur de recherche sur la toile, est une célèbre fabrique de télescopes au Japon, mais c'est aussi celui d'un non moins célèbre auteur de manga. Quant au nouvel album de Yin Yin, dont j'ai extrait ce titre, celui-ci a pour titre Mount Matsu. Alors il existe bien des îles chinoises situées au large de la côte de la province du Fujian dans le sud de la Chine, qui s'appelle comme ça l'archipel de Matsu, mais on n'y trouve pas de montagne. En revanche, il existe bien un mont Matsuo, oui, au Japon, à l'ouest de Kyoto. Bref, inutile de trouver la moindre cohérence géographique ou linguistique dans cette affaire. De toute façon, quand on écoute ce titre signé Yin Yin, on peut imaginer absolument ce qu'on veut. Personnellement, je fantasme un groupe de musiciens thaï ou vietnamiens, soutenu par quelques expatriés occidentaux, il y en a pas mal là-bas, animant, par exemple, je sais pas, une soirée de mariage ou d'anniversaire, et auquel on aurait demandé de faire du disco-funk en y intégrant peut-être un peu aussi de Daft Punk, si c'est possible. Et ils l'ont fait. Enfin, en tout cas, ils ont fait leur cuisine. Yin Yin a été formé il y a un peu plus de 5 ans, je dirais, par deux Néerlandais, donc Kees Berkers, qui est batteur et percussionniste, et Yves Lennertz, guitariste, deux amis d'enfance, deux voisins qui ont grandi dans la ville bien connue de Maastricht, dans l'extrême sud des Pays-Bas. Un groupe totalement pan-européen, d'ailleurs, c'est une compagnie située à Genève, Bongo Joe, qui les a lancés, et une maison de disques allemande, Glitterhouse, dont le siège est en Rhénanie-du-Nord, qui diffuse la musique, les enregistrements de Yin Yin. Yin Yin qui publie donc son troisième album déjà, Mount Matsu. Alors je l'ai écouté très rapidement, comme toujours. C'est très varié, il y a des titres vraiment très différents les uns des autres, notamment certains qui sont marqués par un certain courant de rock psychédélique au son un peu flottant. Ce qui n'est pas tout à fait surprenant, puisque historiquement, le rock psychédélique a marqué il y a plus d'un demi-siècle déjà les pays du sud-est asiatique, notamment la Thaïlande, de son empreinte. Il me reste à vous dire que si vous habitez Strasbourg, eh bien vous avez de la chance, non pas dans l'absolu, je ne sais pas sûrement, mais enfin vous serez les seuls en France cette année à pouvoir entendre Yin Yin. Ce sera le 23 mai prochain dans le cadre du Pelpas Festival qui se tient dans le Jardin des Deux Rives, donc à Strasbourg au bord du Rhin. Alors je vous parlais de l'imprégnation par un certain rock psychédélique de la musique populaire d'Asie du Sud-Est. En fait, ça remonte ça à la fin des années 60 et ça s'inscrit dans le siège d'une autre influence, une autre imprégnation très profonde, pas seulement en Asie d'ailleurs, c'est une influence qui a été mondiale en Afrique, en Amérique latine et bien sûr dans le Pacifique, celle d'un certain style de rock'n'roll instrumental aux notes de guitare tremblotantes, un style pas facile à définir qu'on appelle parfois un peu rapidement le surf rock. On en trouve des variantes asiatiques, oui bien sûr je viens de vous en parler, mais aussi comme je vous disais latino-américaine ou bien moyen-orientale. Et à la source, il y avait qui? Eh bien il y avait les Shadows. Dès la fin des années 50, le tout début des années 60, les Shadows, le premier groupe britannique dont la musique a fait le tour du monde juste avant les Beatles, un groupe purement instrumental, on entendait absolument partout leur titre fétiche Apache. La source de certaines musiques d'ambiance très répétitives qu'on entendait dans certains restaurants, certains hôtels, des musiques dont on ne sait pas d'ailleurs si vraiment on les aime ou pas parce qu'elles flottent dans l'air comme un parfum un peu toxique au charme bizarre. Un style particulier, un charme rétro qui a été l'une des sources d'inspiration d'un autre groupe plus connu que Yin Yin, que j'ai eu bien des fois l'occasion de vous faire entendre dans cette émission, un groupe qui s'appelle Crew Angbin, un groupe qui est né il y a plus de 10 ans déjà à Houston, une ville située, beaucoup le savent, comme la Nouvelle-Orléans, au bord du golfe du Mexique et traversée elle aussi par de multiples courants musicaux. Crew Angbin s'inspire aussi de sons funky électro, au parfum d'Orient et d'Extrême-Orient, comme de sons d'Amérique latine, des sons un peu plus récents souvent, mais qui ont la même fraîcheur, comme comme enfantine. En tout cas, Kluang Bin connaît un succès croissant avec les années, pas singulièrement en France, et c'est un destin très heureux pour ce trio qui est très demandé dans les festivals de rock tout autour du monde. C'est une attraction qui est très appréciée, ils sont trois, donc il y a Mark Spear, le guitariste, et Laura Lee, la bassiste, qui sont coiffées de longues perruques noires. Elle se balance sensuellement, et il y a le remarquable batteur noir américain Donald Johnson, qui crée une douce hypnose irrésistible. Mark Spear, d'ailleurs, et Donald Johnson, c'est très intéressant à souligner, ont longtemps accompagné les cérémonies d'un temple méthodiste à Houston, celui-là même où Beyoncé, et oui, et sa sœur Solange allaient chanter. Voilà, c'est comme ça, disent-ils, qu'ils ont appris à jouer. Quant à Laura Lee, qui partageait avec Mark la passion des 45 tours de rock'n'roll exotique, un peu ce que je vous ai décrit tout à l'heure, eh bien, elle a fini par apprendre à jouer de la basse, et c'est comme ça que Kluang Bin est né. Le groupe sera en tournée en France cet été, il sera à Vitrolles le 10 juillet prochain au festival Jardin Sonore, qui se tiendra au domaine de Font-Blanche. Il sera le lendemain 11 juillet au festival Musilac à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. Un très bon festival qui présente une programmation très attrayante. Il y en aura pour tous les goûts, de Pomme à Étienne Dao, en passant par Lenny Kravitz, Idols et Gossip. Kluang Bin sera également le 23 juillet au festival Paléo à Nyon, en Suisse, de l'autre côté du Léman, et puis de retour à l'automne, le groupe jouera carrément deux soirs de suite à l'Olympia, à Paris, les 4 et 5 novembre prochains. Voici Pon Pon, un extrait du tout nouvel album de Kluang Bin intitulé « À la Sala ».
Vertigo Trip sur France Inter.
Loved, un titre extrait du nouvel album que signe le DJ et musicien d'électro londonien Fourtet, un des plus brillants de sa génération, une génération née autour de la seconde moitié des années 70. Il a fait beaucoup de chemin depuis ses débuts de musicien très précoce, puisque Kieran Hebden, c'est le nom d'état civil de Fourtet, a formé en tant que guitariste son premier groupe, Fridge, un trio entre jazz et hip-hop, à l'âge de 15 ans seulement. Il a eu la chance, il faut dire, d'étudier dans une école très réputée de la banlieue proche du sud-ouest de Londres, à Putney, qui s'appelle l'Elliott School, une école publique, publique dotée par l'État, hein, accueillant les élèves qui désirent s'orienter vers les arts du spectacle. Sont passés par là, entre autres, les musiciens du duo d'électropop bien connu en France, Hot Chip, ainsi que ceux du trio The XX. Après ses débuts très précoces, eh bien Kieran a pu poursuivre sous le nom de Fourtet une fusion très personnelle entre jazz et hip-hop, influencé par des musiciens des États-Unis comme Madlib ou encore le regretté Jay Dilla. Il a introduit dans sa musique des éléments bien à lui, choisis vraiment très librement, percussions indiennes polyrythmiques, d'ailleurs il a des origines indiennes, et puis aussi des sons folk acoustiques. Et cette fusion propre à Fourtet a beaucoup marqué le début des années 2000, notamment le groupe Radiohead, dont Fourtet a certainement influencé les textures rythmiques et le travail sur les ambiances et les sonorité et sans doute plus encore que Radiohead, les albums solo du chanteur Tom York. D'ailleurs, Radiohead avait invité dans ces années-là Fourtet à assurer sa première partie. L'originalité de l'approche de Fourtet a suscité de beaucoup de sollicitations pour remixer les enregistrements de musiciens très divers. J'ai relevé dans la liste de ses collaborations le nom de Andrew Bird, par exemple, ou encore celui de The XX que je vous citais tout à l'heure. Il y a dans son approche à la fois expérimentale et universelle, sans sectarisme, tourné vers le grand public, quelque chose qui peut rappeler un musicien comme Brian Eno. Fourtet a empli le Zénith de Paris au début de cette année et récemment, il s'est produit avec deux des musiciens d'électro les plus populaires au monde. J'ai nommé le Californien Skrillex et le Londonien Fred Again, un jeune ami justement de Brian Eno. Alors pour vous donner une idée, Fourtet est capable de diffuser au milieu d'un set un morceau de Taylor Swift comme l'intro, je ne sais pas, d'un titre de Nirvana. Il y a dans sa musique, essentiellement instrumentale, un mélange de douceur contemplative et d'intensité rythmique qui n'appartient qu'à lui et a de quoi vous faire décoller. Je vous conseille chaudement le dernier album de Fourtet qui s'appelle Three, comme 3. On poursuit ce programme très planant, hein, vous en êtes rendu compte, avec la musicienne anglaise Jane Weaver. Alors je l'ai diffusé déjà il y a quelques mois alors que son album n'était pas encore sorti, il vient de sortir. Alors je vous rappelle ce que je vous disais, c'est une musicienne qui vient de la ville de Liverpool et voilà 30 ans déjà, ça fait longtemps qu'elle fait de la musique dans un esprit à la fois indépendant et communautaire. Elle a publié son premier album en 96 en pleine vague Britpop en tant que chanteuse au sein d'un groupe qui s'appelait Kill Laura. Elle avait déjà un style qui se démarquait, une voix très pure comme on en entend dans le folk britannique au sein paradoxalement d'un groupe punk très bruyant. Et Jane Weaver, c'est ça qu'il faut souligner, elle se situe à l'intersection du folk, hein, c'est sensible dans sa voix, et de la musique électronique, un mélange aujourd'hui extrêmement courant, auquel d'ailleurs on a pu associer Fourtet, je vous en parlais tout à l'heure, et dont finalement Jane Weaver a été une pionnière. Elle a publié un album très remarqué en 2017 qui s'appelle Modern Cosmology, et puis après un album de musique purement instrumentale, elle a publié un recueil de chansons en 2021 qui s'appelle Flock et qui a eu pas mal d'impact à sa sortie. Alors, son style est vraiment typiquement britannique. À la source de sa musique, il y a ce psychédélisme vraiment très propre aux îles britanniques qui tend vers une espèce de mélange assez indéfinissable de mystique pas très sérieuse et de loufoquerie, une source dans laquelle a pu largement puiser notamment Kate Bush. Mais il y a chez Jane Weaver une extravagance assez particulière, je vous répète ce que je vous disais en février dernier, elle va chercher sa matière première musicale dans des sources sonores extrêmement insolites comme la musique New Age, celle d'un compositeur japonais des années 80, Kitaro, ou un certain opéra d'un compositeur moderniste suédois des années 50, et Jane Weaver insère aussi des sonorités bizarres dans ses tapisseries sonores, comme le mélotron, un ancêtre rudimentaire de l'échantillonneur, ou plus obscur, l'orchestron, je ne sais pas trop ce que c'est, et même la bombarde, une sorte de hautbois ancien qu'on entend dans la musique bretonne, un instrument traditionnellement associé au biniou. Le nouvel album de Jane Weaver, Love in a Constant Spectacle, vient de sortir, en voici un extrait qui s'appelle Perfect Storm. We'll be right back. At the Counter, un titre signé par un quatuor londonien entièrement féminin du nom de Bastion. Je vous expliquerai la source de ce nom, c'est un nom néerlandais, c'est pour ça que j'essaye de le prononcer un peu comme on le prononcerait dans cette langue. Bastion vient donc de publier un album qui s'appelle Back to the Swamp, Retour au Marais ou au Marécage si vous préférez, que les quatre musiciennes ont enregistré dans un haut lieu de la musique expérimentale à Londres, qui s'appelle le Café Otto, c'est dans le quartier de Dunstone, c'est dans le nord de la ville. Alors je cite un texte que les musiciennes ont publié sur le site Bandcamp pendant l'un des deux confinements, j'imagine le second. Donc il y a plus de 3 ans forcément. La chanteuse de Bastion, Sarah Fenestea, est une musicienne qui fait quelque chose qui existe mais qui est pas très fréquent. Elle chante en s'accompagnant à la harpe. Et c'est Jarvis Cocker, oui, le fondateur du groupe Pulp, qui a remarqué en premier, il y a pas mal d'années déjà, cette jeune musicienne. Il avait beaucoup apprécié le contraste entre sa voix diaphane et l'humour acide et le ton pince sans rire propre à ses chansons. Et d'ailleurs, Jarvis Cocker a réalisé l'album solo qu'a signé Sarah Fenestea en 2013, qui s'appelle The Moths Are Real. Depuis, Sarah Fenestea a formé un groupe à la composition fluctuante, répondant donc au nom de Bastion, d'après le prénom néerlandais de Bastion Ader. Bastion Ader, un curieux artiste conceptuel des Pays-Bas, qui, il y a bien longtemps, a péri en mer au cours d'une navigation solitaire qui était partie intégrante de son projet artistique global. C'est vraiment une véritable légende, une légende assez tragique. Je crois qu'il y a eu un documentaire qui a été fait sur lui, Bastion Ader. Sarah Fenestea a abandonné la harpe au profit de divers synthétiseurs et son groupe, donc Bastion, est désormais un quatuor 100% féminin dans lequel figurent pas moins de 2 violonistes, l'une acoustique et l'autre électrique. Et alors tout ça, ça semble bien classique, hein, le violon, la harpe, mais enfin c'est un groupe qui s'instille, Bastion est un groupe qui s'inspire beaucoup de groupes féminins qui sont nés à Londres à la fin des années 70 et qui s'inscrivaient plutôt dans un courant de l'après-punk où justement l'absence de règles et la recherche de nouvelles frontières musicales étaient sinon la norme, du moins enfin l'enjeu. Tout de suite, un détour par Montréal. Je vous propose d'écouter un groupe qui existe depuis près de 30 ans déjà, qui s'appelle Carquois, qui est bien connu en France aussi. Carquois, ils l'écrivent K-A-R-K-W-A. Un groupe qui a eu l'occasion de jouer il y a quelques années en première partie de Arcade Fire, qui est autrement connu bien sûr dans le reste du monde. Mais il y a chez Carquois quelque chose de vraiment très particulier, un élan, un souffle qui repose sur un socle très terrien, très enraciné même, et vraiment c'est très très convaincant. Pas moins de 2 titres enchaînés tout de suite, signé Carquois, extrait du dernier album de ce groupe, donc montréalais, un album paru l'année dernière qui s'appelle Dans la seconde, et vous entendrez Parfaite à l'écran, suivi de À bout portant.
Ces mâchoires qui moi qui claquent, qui la blessent. Un long passage entre 2 vagues qui cherche à mort. Elle passe et glisse avec exploit de justesse. Premier abord trouve un endroit sans orchestre. Elle se redresse. À l'intérieur, serpent venin. laisser dans le ciel des écoles en poussière, un inventaire de fausses nouvelles et des vraies images de guerre. Porte-voix à bout portant à défoncer les portes du Parlement. Téléphone à bout portant la vérité dans les droits des enfants.
We're in a dream, and maybe it's a dream.
The Dream, un titre qui sonne curieusement à mes oreilles, un peu comme si le célèbre groupe anglais The Cure avait à un moment donné eu envie de faire une chanson dans le style de Fleetwood Mac. Après tout, ça aurait pu survenir. Enfin, cette idée, c'est un duo du nom de Steel Corners qu'il a eu, et cette chanson est extraite de son nouvel album Dream Talk. Alors, Steel Corners, c'est le fruit de la rencontre, il y a quelques années de ça, sur un quai de gare d'une petite ville au sud de Londres, d'un musicien américain de passage du nom de Greg Hughes et d'une étudiante anglaise, Tessa Murray. Celle-ci allait à sa leçon de chant à la chorale, ils se sont parlé, ils sont devenus amis, hein, pas amants, il précise. Alors Greg, c'est un musicien dont les racines plongent dans le sud des États-Unis. Il a longtemps vécu au Texas, c'est un guitariste à l'origine, mais il joue de divers instruments et il réalise, il fait à peu près tout seul. Il cherchait donc une chanteuse et le destin a voulu que ce soit bien cette jeune anglaise, une petite blonde à l'air réservé, la voix pleine de suavité et en même temps tout en retenue. Steel Corners, le duo donc formé par Greg et Tessa, a enregistré ses albums pour Sub Pop, une légendaire compagnie de disques indépendante basée à Seattle, avec un certain succès croissant. Et alors voici, pour poursuivre dans une certaine veine rêveuse, un nouveau titre signé par le groupe Warpaint. Warpaint, hein, comme peinture de guerre, un quatuor 100% féminin, hein, comme Bastian, dont je vous parlais tout à l'heure, sauf que Warpaint vient de Los Angeles et peut-être plus connu. Je me rappelle avoir vu un concert de ce groupe à ses débuts internationaux, c'était vers 2010, je ne sais plus exactement quelle année, c'était très très envoûtant. Il y avait chez Warpaint une sorte de douce transe qui montait peu à peu. Les quatre musiciennes étaient impassibles, concentrées, et une étonnante force se dégageait de leur apparente douceur. Et quand on réécoute le premier album que Warpaint a sorti en 2010, on est frappé par la subtilité de la rythmique, parfois jazzy, la richesse presque modale, hein, des harmonies, enfin c'est pas les harmonies occidentales habituelles en tout cas, et le côté envoûtant, un psychédélique au fond des morceaux. La mélodie a toujours été présente chez Warpaint et la très belle voix haute de la chanteuse, pas toujours haute d'ailleurs, elle a un registre assez étendu, de la chanteuse donc qui s'appelle Emily Cockal, semble maintenir les chansons dans un état d'apesanteur. Warpaint a été formé donc par quatre musiciennes qui se connaissent depuis l'adolescence, elles avaient même vécu un temps en communauté, et puis il est arrivé ce qui arrive à tant de groupes après trois albums parus entre 2010 et 2016, qui ont rencontré un bon succès, et bien les musiciennes ont eu envie de prendre de l'air. Emily, la chanteuse, est devenue mère. Elle avait besoin de temps pour elle et son enfant. Et puis les autres musiciennes se sont consacrées à d'autres projets. Et puis en plus, par-dessus le marché, la pandémie est arrivée. Warpaint est revenu en 2022, publiant un album qui s'appelait Radiate. Les mélodies avaient des inflexions plus jazzy encore. Hein, et un parfum, il y avait un parfum suave, très californien. On pouvait même penser, en écoutant ça, à une version moins mélodramatique de certaines chansons de Lana Del Rey. Et oui, un tout nouveau et excellent titre signé Warpaint vient de sortir. Il s'appelle Underneath et c'est dans Very Good Trip ce soir sur France Inter.
To be alone.
Very Good Trip sur France Inter. Mishka Assayas.
Une voix tout en douceur aérienne, vous l'avez senti, celle de la chanteuse du groupe Crumb, un groupe new-yorkais, une chanteuse et guitariste du nom de Lila Rahmani, d'origine malaisienne. Le titre s'appelait Amama, c'est un groupe qu'elle a fondé avec trois autres musiciens, Crumb comme miette. Alors c'est marrant parce que le père de Lila jouait en Malaisie au sein d'un groupe qui reprenait des chansons des Beatles. Ça nous ramène à des choses que je vous racontais à propos de Yin Yin et de Kruang Bin au début de cette émission. Voilà, c'est tout pour ce soir. On va certainement parler du nouvel album, du premier album de Crumb, mais ce sera une autre émission. Merci beaucoup à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission de ce soir. Merci à Alex Olarewaju Otinois qui était à la technique. Merci également à Guillaume Kohner comme à Romain Couturier.